Qatar. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André Dimboumaï au Qatar oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine des chants citoyens sur Radio Okapi. Les mercredis 2 octobre dernier, le représentant du Rwanda, de la RDC, ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine ont tenu à Washington, aux États-Unis, la troisième réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix Rwanda-RDC, signé le 27 juin dernier. Les comités ont reconnu les obstacles persistants la mise en œuvre de l'accord, notamment la neutralisation du groupe armé des FDLR et des CIA, factions associées, mais aussi la question des désengagements des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Face à la recrudescence des tensions dans les territoires d'Uvira dans le sud Kivu et de Walikale dans le nord Kivu, les comités ont lancé un appel au calme et à la retenue sur le terrain au regard de la poursuite des hostilités entre les M23 et les FRDC. Une certaine opinion estime qu'environ 4 mois après la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda, il n'y a aucune avancée significative dans la mise en œuvre de cet accord. Dans l'entretemps, le comité prévoit de tenir la prochaine réunion après celle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité programmée le 21 et le 22 octobre prochain. D'aucuns s'interrogent par ailleurs sur les mécanismes à mettre en place, les dispositions à prendre pour surmonter tous les obstacles contraints dont les parties en conflit à respecter l'application de cet accord de paix signé au mois de juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Que pensez-vous du processus de la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda environ 4 mois après la signature? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 09 71 680 79. Deps Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Jonathan Chimanga et Paul Badianyama sont là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngomombala. À toutes et à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, c'est le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
je
ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur la plateforme digitale de Radio Okapi, à savoir YouTube, X et Facebook. Et comme toujours, je peux m'empêcher de remercier tous ceux qui ont déjà réagi par rapport à ces sujets. On aura comme toujours l'occasion de lire quelques-unes de vos actions au cours de ce magazine, mais surtout également les condensés de Julie Feza Bongonda par rapport à toutes vos actions et pour parler s'il faut dire, du bilan d'exécution de l'accord de PRDC Rwanda, environ 4 mois après sa signature. J'ai le plaisir de recevoir dans ces studios le professeur Chibonkala. La professeur, bonjour.
Bonjour, Marcel Ngombo.
Voilà, vous êtes expert en droit international et c'est avec vous, d'ailleurs, que nous avons déjà commencé. Ça fait déjà depuis quelques mois suivre de près tout ce qui se passe concernant les processus de paix RDC et Rwanda. Et avec vous, on a parlé le 27 juin, lorsque cet accord a été signé, qui a suscité beaucoup d'espoir. Mais voilà qu'aujourd'hui, environ 4 mois après la signature de cet accord, il y a ceux qui estiment qu'il n'y a pas des avancées significatives. Et vous avez suivi, et comme je l'ai annoncé dans mon introduction, lors de la dernière réunion tenue le 22 octobre dernier entre le représentant du Rwanda, de la RDC, ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo, de la Commission de l'Union africaine qui s'est tenue à Washington. C'était la troisième réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix Rwanda Burundi. Et le comité a reconnu qu'il y a 10 obstacles dans l'exécution de ce projet. Pour ça, vous, à ces jours, que faites-vous, quelle analyse faites-vous de l'exécution ou de la mise en œuvre de cet accord de paix RDC-Rwanda?
Merci Marcel Ngombo, encore une fois pour l'invitation.
Je vois que vous êtes en forme, vous venez de rentrer de vos vacances.
Non, tout à fait. Vous l'avez remarqué, merci professeur. Et bon, on y va, oui.
Voilà, Sengombo, je constate ce que tout le monde constate, y compris par les principaux acteurs de cet accord. Il y a des obstacles. Et ce qui est choquant, c'est que ce qui était prévu comme la fin est devenue le début. Parce qu'en réalité, on devait avoir terminé tous les problèmes dans un délai de 3 mois. C'est ce qui était prévu dans le calendrier. Donc, fin septembre, tout doit être terminé. Le démantèlement ou la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. 3 mois, c'était fini. Le délai est là. Mais à la fin, on transforme la fin en début. On dit que c'est maintenant qu'on va commencer, le 1er octobre. Donc il y a là un véritable problème qui se pose. Mais on ne peut pas continuer à pleurnicher. Je vais tout simplement attirer l'attention de la société civile et de la société politique de notre pays sur le risque. Et j'espère que les acteurs congolais vont prendre cela au sérieux. Marcel Ngombo, il ne faut pas que notre pays, que notre peuple puisse revivre ce que nous avons vécu il y a aujourd'hui 25, 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le 10 juillet 1999. 6 pays africains réunis à Lusaka.
De 1999, hein, pour le Belge. Hein.
1999, 10 juillet 1999, à Lusaka. 6 pays, RDC, Zimbabwe, Angola, Namibie, Rwanda, Ouganda, plus 2 mouvements rebelles congolais, MLC et RCD, signent un accord de cessez-le-feu, un accord de paix. Et en annexe de cet accord, il y a un calendrier de retrait de toutes les troupes étrangères. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la première guerre mondiale africaine. Ouais, de nombreux pays. 6 mois, donc 180 jours, les troupes étrangères doivent avoir quitté le territoire congolais.
C'est ce qui prévoyait l'accord.
C'est ce qui prévoyait l'accord, ouais. C'est le fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Avec l'Ouganda en particulier. Les 6 mois sont écoulés. L'Ouganda n'a pas bougé. Ses troupes sont toujours là. On a maintenant élaboré, après Lusaka, le plan de désengagement de Kampala, le 8 avril 2000. Ça n'a pas marché. C'est un nouveau calendrier. Le 6 décembre 2000, encore un autre calendrier de désengagement des troupes ougandaises. 6 décembre 2000, ça n'a pas marché. Finalement, il y a eu l'accord de Luanda, 6 septembre 2002, toujours pour le retrait des troupes ougandaises. Ça n'a pas marché. On a fait un amendement à l'accord de Luanda le 10 février 2003 à Dar es Salaam. Ça n'a pas marché. Finalement, c'est le 10 juin 2003 que le dernier soldat ougandais a quitté le territoire congolais.
Environ 4 ans après.
Voilà. Donc, ce qui était pour régler le problème dans 6 mois, ça a pris 4 ans, Marcel Ngombo. Avec des reports, avec des filous, des tergiversations, des manœuvres, de retardement, etc. Bon, je constate que ce qui était prévu aujourd'hui, dans l'accord de Washington, les trois mois se sont écoulés, les troupes rwandaises sont toujours là. À l'époque, on modifiait le calendrier par voie d'accord, accord bilatéral, mais aujourd'hui ce sont des communiqués. Donc, on modifiait un accord interétatique par voie des communiqués diffusés par le département d'État. Oui, mais on a dit maintenant, on va commencer le 1er. Oui, mais le 1er octobre, mais on va commencer maintenant, ça sera le 21 octobre. On n'est pas rassuré que le calendrier sera tenu. Et je crains qu'on ne puisse se retrouver dans la même situation avec l'accord de Lusaka.
Alors, François, lorsqu'on parle des obstacles.
Et le Rwanda.
Lorsqu'on parle des obstacles, comment, qu'est-ce que vous comprenez par obstacle? Parce que selon justement ce communiqué, hein, du porte-parole du département d'État américain, on parle des questions liées à la neutralisation du groupe armé des FDLR et de ses factions associées, mais aussi la question des engagements des forces et de la levée de mesures défensives du Rwanda. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau?
Je n'en sais rien. Vous comme moi, nous constatons l'échec. Donc il ne faut pas rentrer dans des phrases. Oui, il y a eu ceci. Le peuple congolais n'a pas besoin de belles phrases. Le peuple congolais, nous, vous et moi et tous les autres acteurs, nous attendons des résultats concrets sur le terrain. Quels résultats? Nous ne voulons pas entendre parler de la présence d'un seul soldat rwandais sur le territoire congolais. Que les FDLR doivent être neutralisés. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être tués. C'est-à-dire qu'ils doivent être évacués des zones qu'ils sont censés occuper. Mais il se fait que ces zones-là sont occupées aujourd'hui par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Donc c'est eux, éventuellement, qui doivent s'occuper de cette affaire de FDLR. Mais on ne va entrer pas dans les détails. Pour le moment, nous constatons que ça ne marche pas. Mais cela ne veut pas dire que l'accord de Washington est mort. On continue. Mais nous devons être vigilants. Il ne faut pas qu'on rentre dans le schéma de l'autre, qui était d'ailleurs du reste le même schéma qu'avec le Rwanda. Après le Rwanda aussi a traîné, ça a fait aussi 4 pour que les troupes rwandaises quittent. Donc il ne faut pas qu'on puisse rééditer ce que nous avons vécu. C'était malheureux avec l'accord, c'est le feu. Mais la question essentielle qu'il faut relever ce matin, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Que doit faire la RDC devant cette situation? Moi, je pense, à mon avis, qu'il faut faire ce que le général de Gaulle a fait en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ce que les Turcs ont fait avec Kemal Atatürk. Les Américains eux-mêmes, les spécialistes de l'université Harvard aux États-Unis, ils ont élaboré un modèle, un instrument de travail, de réflexion, qu'ils ont pu mettre à la disposition des décideurs politiques, qu'ils appellent le BATNA. Les anglo-saxons aiment bien les abréviations ou les sigles et les acronymes. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Je traduis en français pour meilleure alternative à un accord négocié. C'est ce que les dirigeants congolais doivent faire aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous n'avons pas notre propre BATNA, notre propre meilleure alternative par rapport à ce qui se passe sur les deux tables de discussion à Doha et Washington, nous devons construire notre propre doctrine militaire, politique, diplomatique pour compter autour de la table. Sinon, on sera éliminé de l'histoire. Comme on dit en France, les intellectuels français le disent, eh bien, si vous n'êtes pas autour de la table où les gens sont en train de manger, vous n'êtes pas à la table où les gens mangent, sachez que c'est vous-même qui êtes la nourriture que vous êtes en train de manger à la table.
Mais pour ça, je me
donc la RDC doit tout faire aujourd'hui de construire sa propre alternative efficace pour éviter qu'elle ne puisse être mangée à la table de Doha ou à la table de Washington. Je m'arrête là pour le moment.
Ah, avant de parler de la RDC qui doit trouver sa propre alternative, je me rappelle, lorsque cet accord a été signé, vous avez applaudi, en tout cas, le fait qu'il y ait une grande puissance, c'est-à-dire les États-Unis, qui étaient comme le parrain de l'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est du rôle que doivent jouer les États-Unis? Parce que, déjà, l'accord prévoyait des mécanismes en cas de blocage ou lorsque des problèmes qui se posaient. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord commencer par essayer de mettre ces mécanismes qui ont été produit en place, parce que on l'avait déjà dit au départ, il y avait un langage de sourd sur l'interprétation de l'accord, sur la neutralisation de FDLR et la levée de forces défensives rwandaises. Pour le Rwanda, il fallait d'abord neutraliser les FDLR, et c'est à ces moments qu'eux vont penser à retirer leurs forces, en tout cas de territoire congolais, mais c'était pas ça l'entendement du côté congolais. Et vous avez dit que les deux opérations devaient se passer simultanément. Là, on est totalement perdu.
Sur papier, l'architecture était bonne. On avait prévu, par exemple, le comité de surveillance conjointe.
Oui.
Avec le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine, comme force qui devait contrôler la mise en œuvre de cet accord, recevoir des plaintes, traiter tout ce qui ne marche pas, proposer des solutions, prendre des décisions qu'il faut prendre, de manière à ce que l'accord soit appliqué, soit exécuté correctement. Mais ce comité de surveillance semble piétiner. Ce comité de surveillance conjointe semble ne pas prendre les choses en main pour faire pression, pour voir, mais ce problème des faits de l'air, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est ce comité qui doit agir. Et nous étions tous optimistes du fait que les États-Unis sont dans ce comité de surveillance et que ce comité devra prendre les décisions appropriées pour faire avancer les choses. Mais nous constatons que 3 mois après, au moment où on devait faire le bilan des résultats, eh bien, le compte n'y est pas. J'ai suivi la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, donc le représentant permanent, il dit la même chose, que ça ne marche pas. C'est un langage diplomatique. Dire qu'il y a des obstacles, ça signifie que ça ne marche pas, n'est-ce pas? On n'a pas atteint les résultats prévus conformément aux opérations, au calendrier qui était établi, approuvé. Et donc, mais non, soit ce comité fait correctement son travail de faire pression sur les uns et les autres, de prendre les décisions, de traiter les problèmes, de prendre des décisions pour avancer les choses. Alors si ce comité n'est pas efficace, finalement, n'est pas efficace, semble aussi se perdre dans les hypocrisies diplomatiques, n'est-ce pas? Eh bien, en ce moment-là, pour moi, il faut que le dossier soit refilé au Conseil de sécurité. Parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'occupe du maintien de la paix et de la sécurité.
Mais là également, vous direz qu'il y a la résolution 2771, le Conseil de sécurité, mais également sur le terrain, il n'y a rien de concret.
Donc, le Conseil de sécurité, quelque part, je constate qu'il a été un peu paralysé,
oui,
par l'activisme des États-Unis, qui était un membre important du Conseil de sécurité. Sans oublier que la création du Conseil de sécurité, c'est une proposition américaine qui était faite à San Francisco. Il faut qu'on crée un directoire mondial avec le droit de veto, etc. C'est une proposition américaine. Donc, quand le Conseil de sécurité a constaté qu'un membre important, comme les États-Unis, est engagé dans ce processus, eh bien, ils ont essayé de dire, bon, il ne faut pas qu'on dérange les autres. Voyons voir les résultats. C'est politique, n'est-ce pas? Mais maintenant, si le compte n'y est pas, il faut que les États-Unis aient l'honnêteté, correction, de dire au Conseil de sécurité, écoutez, j'ai essayé de faire avancer les choses, il y a des obstacles, maintenant, prenons les choses en main, dans le cadre cette fois-ci du Conseil de sécurité, qu'on fasse appliquer la résolution 2773 pour que, qu'on prenne des sanctions, je n'ai jamais abandonné cela,
oui,
qu'on prenne des sanctions dures, robustes, contre tous ceux qui ne respectent pas cette résolution.
On revient à vous, professeur, les temps d'accorder la parole aux auditeurs. Ils sont déjà nombreux qui aimeraient intervenir. Nous avons Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche, à Mosbissi, moi qui est à Bukavu, Sylvain Aguenoff qui est à Mayagi, Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PC, votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'exécution ou de la mise en œuvre de l'accord de PRDC. Rwanda, si vous voulez intervenir, composez les 09-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on y va avec Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole, on vous écoute.
Bonjour en France. Je suis personnellement content qu'il soit là. Parce que la fois passée, quand lors de son dernier passage, il s'était montré vraiment optimiste, et je suis content de l'objection qu'il vient de présenter, que tout le monde constate, c'est que tout le monde constate. Alors, moi, j'ai seulement des questions à lui poser. Le prof, avec moi, je suis un excellent admirateur de vos analyses sur beaucoup de points. Nous nous rencontrons, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, avec autant de politesse, je me permets aussi de vous le dire. Est-ce que vous allez admettre aujourd'hui que la fois passée, vous vous êtes vraiment trompé sur la cote d'excellence que vous aviez donnée au contenu de ces accords? C'est une des premières questions. Puis des deux, est-ce que vous serez d'accord d'admettre que dans la plupart des cas, nous avons une culture politique qui fait que parfois nous permettions de signer des contrats jutés sur la vente des peaux de l'ours que nous n'avons pas encore entre nos mains. Et quelque part, je suis en train de me demander, c'est peut-être un problème aussi de culture et de conception politique. Donc, chez nous, il y a un peu des élans attentistes. Ce qui devait être fait par nous-mêmes, nous pensons que ça serait fait par les autres pour notre bien. Mais par rapport à ce que le prof venait de dire, il n'y a pas d'amitié entre États, il n'y a que les intérêts qui unissent les États. Mais maintenant, quand nous renonçons à nos responsabilités régaliennes, pensant que ce sont les autres qui vont mieux faire à notre place, est-ce que nous sommes vraiment responsables par rapport à de tels comportements? Et ce qui est déjà constaté par tout le monde, si on ne tient pas compte de tous ces paramètres, on va chercher des alibis pour présenter comme des leviers pour faire signer des contrats, est-ce que ça irait? Et c'est là où je me dis, le problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que nous avons un problème d'homme. On peut bien voir là où se trouve la maladie, mais au lieu de prescrire les bons médicaments relatifs à cette maladie, on va prescrire d'autres médicaments, sachant que ça n'ira pas. Mais parfois, quand nous sommes devant les micros de la presse, intellectuels ou pas, on dit que ça marche, alors que peut-être parfois on sait que ça ne marcherait pas. Et personnellement, pour le moment, je peux dire que la plus grande victime, c'est d'abord la population. Ce sont les gens, nos confrères, nos compatriotes de l'Est, qui continuent à souffrir, et la misère est en train de s'amplifier, et sur place, rien ne marche. Mais pourquoi ne pas revenir à ce préalable qui est suggéré par tout le monde, que les Congolais et Congolaises se rencontrent, se mettent encore ensemble pour se convenir en s'harmonisant, en éloignant tout autour d'eux, tout élan, tout excès qui nuirait à leur bien-être.
Mais pourquoi ne pas commencer par
le préalable le plus... Oui, ma chère.
Franck, s'il vous plaît. Alors, là, c'est je pense que, pour l'instant, vous avez suivi, le professeur l'a dit, on ne dit pas que cet accord a échoué, mais ce qui est vrai, il y a sa mise en œuvre qui pose problème. Alors, vous estimez qu'il faut absolument mettre de côté cet accord ou bien continuer à faire confiance en cet accord et peut-être voir comment peut-être faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Ou bien vous pensez vraiment qu'il n'y a plus d'espoir pour cet accord?
Moi, je trouve personnellement que ce ne sont pas les Américains qui mettraient de l'ordre dans tout ce qui se passe chez nous. C'est d'abord aussi une discipline interne.
Oui.
Mais quand déjà de l'intérieur, nous savons qu'il y a des problèmes qui font qu'on ne se mette pas encore d'accord sur ce qui doit être dit de l'extérieur. Mais quand on va sur toutes ces tables de négociation, on présente quelles préoccupations? C'est d'abord de l'intérieur qu'il y a autant de problèmes qui donnent maintenant des alibis à ces rebelles pour venir nous agresser. Mais tant que ce problème n'est pas encore résolu, est-ce que on irait seulement sur des tables de négociation alors que nous savons qu'il y a un préalable mal réglé, mal repensé? Je crois que c'est par là, c'est par ces fondamentaux qu'il faut recommencer. Mais si maintenant ceux qui doivent prendre de telles décisions font semblant de banaliser, de niveler, donc ils vont seulement signer des accords alors que de l'intérieur, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en ordre. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut commencer? Et on attend seulement que les autres viennent. Ce qui est destiné pour les Congolais, c'est mal géré. Il y a encore la mauvaise gouvernance, il y a les détournements, il y a les injustices, il y a tout ce qui se passe là.
Alors,
Franck, on peut encore espérer que les autres viennent mettre de l'ordre là où nous-mêmes nous sommes en train de torpiller ce qui devait être convenablement fait pour les biens collectifs.
Voilà.
C'est là
le problème de l'homme congolais. Franck, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut d'abord trouver des solutions en interne pour des problèmes congolais plutôt que de se fier à tout ce qui s'est fait avec soit la communauté internationale ou bien d'autres partenaires dans le processus de paix. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. On revient ici au pays, en RDC, plus précisément à Bukavu, dans le sud que vous pourrez écouter. Amos Missimwa. Amos, vous avez la parole.
Merci Marcel. Je tiens à saluer tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Je salue l'invité, le professeur Tshibangu. Au fait, comme Franck venait de le dire, je pense que le prof peut nous donner raison aujourd'hui. La dernière fois qu'on a été avec lui, dans la même émission, par rapport à cet accord de paix, j'étais clair et j'avais dit, cet accord, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, on risque de connaître des problèmes. Parce que la situation que traverse la RDC aujourd'hui n'est pas liée aux problèmes externes. C'est plutôt lié aux problèmes internes. Et aujourd'hui, la RDC connaît de sérieux problèmes au niveau interne, de la mauvaise gouvernance. Il y a la problématique de la cohésion et de l'unité nationale que le régime en place continue à mettre en cause juste pour vouloir sauvegarder son pouvoir au-delà de 2028. Et c'est déjà un problème. Prétendre que ce sont les autres qui viendront nous aider au moment où nous-mêmes, nous sommes incapables de nous mettre autour d'une table, comme Franck venait de le dire. C'est là que nous soutenons l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Que les Congolais se mettent sur une table et qu'ils se regardent en face. Ils se regardent dans les yeux en se disant des vérités par rapport aux problèmes qui secouent notre pays. Les autres sont en train de profiter la défaillance qui se vit au niveau interne du pays. On a toujours dit que la manière dont un tailleur trouve quelqu'un, c'est de cette manière qu'il peut coudre son habit. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui.
Voilà, merci.
Vous voyez, Marcel.
Oui, oui.
Vous voyez, Marcel, je voulais citer, permettez quelques minutes.
Allez-y.
Vous voyez, aujourd'hui, au lieu qu'on puisse, on s'est dit, on est sur la table des négociations, Kinshasa dit que non, c'est Kabila qui est le chef du M23, l'AFCM 23. On est sur la table des négociations à Doha, mais au même moment, Kinshasa se permet de condamner à mort Kabila. Est-ce que réellement Kinshasa veut la paix et veut que ce processus de paix, le pourparler à Doha puisse aboutir? La réponse dit non. Au même moment, Kinshasa, même au niveau de ces institutions, il y a des stabilisations. On connaît ce qui s'était fait à l'Assemblée nationale, des montages et autres, juste pour écarter des éléments gênants. Que c'est déjà un problème. Et tout ça, on n'est pas en train de voir que ce sont des problèmes qu'ils créent au lieu de voir d'abord comment les résoudre. Et dans tout ça, comme Franck l'a dit, c'est nous, population, qui sommes sacrifiés.
Voilà, merci.
Et puis toute la population vivant à l'Est. Moi, je pense à la lire où vont les choses, qu'on comprenne que le problème d'abord est interne.
Voilà, merci, vous l'avez déjà dit. Merci Amance, vous l'avez déjà dit. Merci, vous l'avez dit Franck également. Vous avez également rejoint Franck qui a pensé qu'il faut d'abord trouver des solutions à l'interne. Merci Amance Bissimoa d'avoir appelé depuis Bukavu. Cette fois-ci, on va à Maggie pour écouter Sylvain Aguenoff. Sylvain, vous avez la parole.
Bien, Marcel, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Mais je voudrais d'abord compartir avec mes frères de l'Est, les Nord, les Sud-Kivu, l'Ituri, où il y a des morts chaque jour. Nous commentons cette actualité en état des observateurs de la roue conflictuelle congolaise depuis 1997. Et je salue le prof Kalala aujourd'hui qui comprend avec nous les auditeurs de la radio-capille que les analyses qu'il a faites la fois passée étaient erronées. Il dit qu'il n'y a pas question. Il ne faut pas que les Congolais puissent consommer les paroles. Je suis d'accord avec lui. Nous sommes en train de faire les évaluations des accords de Washington et de Doha, et moi, puisque nous, on sait de la RDC, nous refusons chaque jour sur la question de l'Est. Et vous savez, aujourd'hui, au Congo, je l'ai toujours dit, c'est que si nous voulons parler politique, il faut absolument axer son programme politique sur la question de la gouvernance des terres et l'éradication des rébellions au Congo. Puisque nous sommes en train d'évaluer cet accord de Washington et de Doha. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Hier, lorsque moi et le professeur Kalala et mes collègues que j'ai salués, et à mon avis, moi comme aussi mon frère Franck, nous l'avions déjà évoqué la première émission finie sur la radio Capi. C'est que, monsieur le journaliste, les Congolais aujourd'hui ont pris une décision permissive de déchiffrer la Constitution et de fonder la croyance de sa politique sur des accords. Les profs disent, je répète ce qu'il a dit, Il ne faut construire notre propre doctrine politique et sécuritaire. Je pose une question à laquelle je donne la réponse au propre Kalala. Les articles 204, 203, 202 donnent déjà des responsabilités au gouvernement, et d'ailleurs en mariage avec les articles 90 dans 94 de notre constitution, qui imposent au gouvernement en tant que premier responsable de la gouvernance de l'espace géopolitique sécuritaire de la République démocratique du Congo. Tout le monde aujourd'hui, que ce soit M. Patrick Muyaya, et même le président actuel, le président Félix Tshisekedi, c'était Kabila, tout le monde veut le faire croire aux Congolais que ce sont des accords qui fonderont la base de la sécurité à l'est du pays. Et vous, journalistes, ici, nous sommes dans une radio très, très prestigieuse, hein, la radio Capi, écoutée de par tout le monde. Pourquoi nous ne voulons pas prendre les actions, les missions inscrites par nous Congolais dans notre constitution, j'ai dit les articles 90 et 94 qui changent le gouvernement à nous sécuriser, les articles 202, 203, 204 qui responsabilisent le gouvernement dans tous les domaines. Nous parlons des accords de Washington, où on parle aussi des accords sur les minerais. Mais l'article 202 donne au gouvernement congolais la politique de sa défense, la politique de sa gestion des mines et tout et tout. Ce n'est pas aller chez Trump s'agenouiller et demander, nous vous donnons la mine et donnez-nous la sécurité.
Alors Sylvain, au regard de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui à ce qui semble, pour ce qui semble être comme un blocage, pour ce qui est de la mise en œuvre de l'accord de paix Rwanda-RDC, qu'est-ce que selon vous qui doit être fait?
D'abord, je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. Hier, il y avait Santiti, il y avait Brazzaville, il y avait Addis Abeba, on a signé de la CRCL. Et ça, c'est la condition de la CRC. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat président 2028. Il est fallait construire la RDC. La constitution nous donne toute la base. S'il y a des accords hypocrites avec des partenaires hypocrites, qu'est-ce qui empêcherait les présidents de la République? Mais c'est Mouzouto nous a présenté un budget. Les députés ont voté le budget fort pour l'armée, pour la sécurité, donnant les moyens à la politique de notre.
Il y a des soucis avec la ligne de Sylvain Guenon depuis. Sylvain, s'il vous plaît, on a quelques soucis avec votre ligne, mais on a compris l'essentiel pour vous. Il faut se méfier de tout ce que, en tout cas, de tous les accords. Il faut d'abord que les Congolais puissent s'assumer à l'interne, et ça pourrait être la solution la mieux adaptée pour résoudre cette crise à l'est de la RDC. Merci. Sylvain Guenhoff d'avoir appelé depuis Magui. On va prendre Patrick Odia qui nous a appelé depuis Lubumbashi, puis on va retrouver notre invité, le professeur Chibangu Kalala. Maître Patrick Odia, vous avez la parole depuis Lubumbashi.
Vous allez dire bonjour Marcel, bienvenue, bon retour, et aussi au professeur Chibangu Kalala qui nous a manqué beaucoup, ça faisait longtemps également. J'ai l'impression aujourd'hui que le professeur a compris, il avait déjà compris, il avait fait une belle analyse, mais aujourd'hui il semble arriver à conclure également que ce que nous avions dit autrefois avec les Franck, Amos et les autres, qu'on était sceptique ou pessimiste quant à l'aboutissement de cet accord. Aujourd'hui, le procès est revenu sur face. Alors, lors de cet ensemble, je pense que le comité conjoint qui a été mis en place reconnaît une chose, la persistance des conflits et voire même l'état de gravité sur terrain également, à Zimbira et les autres également. Ça, c'est un fait. Mais les comités également soulèvent des préoccupations majeures, ou on a identifié des préoccupations majeures. La première préoccupation, ou le premier défi, c'est le désengagement des mesures défensives de l'armée rwandaise également. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, c'est l'incapacité, on va dire, de la RDC de pouvoir procéder à l'éradication des FDLR. Et là, moi, je pense que, d'une part, les négociateurs de la RDC, j'aurais souhaité que le professeur Chimangala la fasse partie de ces comités autrefois, mais malheureusement, a commis les erreurs ou l'erreur, le comité avait commis l'erreur dans la sémantique, surtout de l'accord des familles accord, par exemple. Lorsqu'on soumet la RDC à l'éradication des FDLR, alors qu'on ne sait pas identifier la FDLR, alors qu'on ne sait pas où, comment ils opèrent, et ça, je pense que les négociateurs avaient commis une faute erreur. Alors, qu'est-ce faire en ce moment ici? Je pense qu'en 1973, les mesures ont été prises contre le Cuba, mais aussi les mesures ont été, où les États ont été obligés de pouvoir rompre les relations diplomatiques avec les Cubains. Il en est déjà également, il en est de même également avec la République sud-africaine également, lorsque la, cet État avait, on va dire, conquéri l'État namibien également. Moi, je pense que le Conseil de sécurité a une part des responsabilités majeures, parce qu'on peut activer le chapitre 7, le processus, c'est de quoi je parle, le chapitre 7, le charte de la constitutive des Nations Unies également. Et le Conseil de sécurité peut prendre des mesures, notamment les forces en présence, les États-Unis, le Qatar ou les Doha et les autres, tout ça. On peut mettre une armée pour contraindre les parties en présence afin de respecter les accords. Voire même un calendrier qui doit être un ultimatum, qui doit être sommé et signifié aux parties, peut-être en ayant 6 mois, 3 mois, 4 mois, 3 jours, les armées doivent se désengager de l'autre côté. Et à défaut de ça, une armée conjointe des Nations Unies peut se mettre pour éradiquer et remettre la paix parce qu'il y a des morts également.
Donc, Maître Patrick Odia, parce qu'on doit avancer, si j'ai bien compris, pour vous, lorsque les blocages persistent, c'est au Conseil de sécurité, en tout cas, de prendre les choses en main, c'est-à-dire de mettre en place des sanctions et puis appliquer les chapitres 7, hein, de manière à ce qu'en tout cas, on puisse contraindre le parti en conflit à appliquer cet accord, ou bien en tout cas à imposer la paix. Allez, rapidement, Maître Patrick, oui.
Oui, j'ai dit oui, vous l'avez compris, c'est ça, la grande responsabilité revient au Conseil de sécurité. Parce qu'il y a des cas précédents également, j'ai cité la RCA, mais aussi la Namibie et le Cuba et les autres.
Oui.
Mais aussi une responsabilité était ou est de la RDC. J'aurais souhaité que les experts comme le professeur Tubankalale, qui savent interpréter juridiquement certains termes qui peuvent prêter à confusion et qui continuent à prêter confusion. Si posez-vous un peu, imaginez-vous que la RDC, aujourd'hui, on lui donne la mission d'éradiquer les FDLR. Alors, on ne sait pas, mais on a quand même signé. Je pense que la prochaine fois, on devait associer certains experts, sociopolitiques, administratifs, juridiques également, qui peuvent aider l'État à mieux signer les accords.
Voilà merci beaucoup, Maître Patrick Odia, depuis le Bombach, avant de retrouver le professeur Tshibangu Kalala pour réagir par rapport à toutes ces interventions. Je m'en vais lire rapidement quelques réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs, également dans le WhatsApp de Parole aux auditeurs, la Junior Bompongo, qui est chercheur indépendant gouvernance et mécanisme de sortie de crise en contexte de conflit armé, qui écrit ceci: sans transparence, aucun processus de paix ne survit longtemps. La méfiance nourrit la rumeur et la rumeur tue la confiance en outre. La paix ne se signe pas. Elle se construit au regard de la situation sécuritaire délétère. Notre pays, la RDC, n'a pas besoin d'un énième accord de façade, mais d'un processus durable enraciné dans la légitimité. Une autre réaction, c'est celle de Kiloa Calvin, qui se présente comme acteur engagé pour la paix depuis la ville de Kisangani. Il nous écrit: 4 mois après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, il est clair que le processus d'exécution reste au point mort. Les hostilités persistent. Les civils continuent de fouiller les armes et parlent plus fort que les engagements diplomatiques. Cela prouve que l'accord, bien que signé, n'a pas encore trouvé son ancrage sur le terrain. Voilà, beaucoup de réactions. Hein, je l'ai dit, on ne pourra pas les lire toutes, mais il y aura le condensé que nous a fait Julie Fezabongonda, qu'on pourra lire avant la fin de ce magazine. Professeur, vous avez suivi toutes ces réactions et il semble que tout le monde s'accorde à dire que au cas où il y a le blocage persiste, c'est au Conseil de sécurité de prendre des mesures qui s'imposent.
Merci beaucoup, Franck. Je salue mes amis Franck de Vienne, Amos de Bukavu, Sylvain de Mahaki et Odia de Lubumbashi. Patrick Odia. Eh bien, mais nous sommes tous d'accord. J'aimerais quand même préciser certains points.
Oui.
Je ne m'étais pas trompé sur le contenu de l'accord. L'accord est bon sur papier. Nous avions tous demandé la vigilance. Même si c'est bien fait, c'est clair, les États-Unis sont là, mais le peuple congolais ne doit pas rester naïf. Nous devons continuer à être vigilants. Et ceux qui avaient des réticences, qui disaient que ça ne marchera pas, j'avais dit à l'époque, ils ne sont pas contre l'accord, mais ils expriment des inquiétudes. En se demandant, mais vu le passé, je vous donne l'exemple de l'accord de cessez le feu de Lusaka. Bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce qu'on n'est pas en train de rouler la RDC dans la farine? C'était des inquiétudes tout à fait légitimes. Mais personne n'a dit ce matin qu'il faut déchirer cet accord. C'est ce que je constate. Bon, c'est un bon accord. Mais il y a des difficultés qui se présentent pour son exécution. Encore une fois, Franck, nous avons des problèmes internes, problèmes de gouvernance. Nous en parlons tous les jours, nous sommes d'accord. Mais ce matin, nous parlons d'un accord interétatique, un accord entre la RDC et un État étranger qui a ses troupes sur notre territoire. Les problèmes internes sont là, on les traite dans les cadres appropriés, qui sont réels, le problème de gouvernance. Et donc, nous ne pouvons pas, et je l'ai dit, penser que ce sont les États-Unis qui viendront résoudre tous nos problèmes. Que ce sont les autres qui viendront. Nous ne l'avons pas dit. Et je suis satisfait de voir que les autres événements vont dans le même sens. La sécurité sur notre territoire, la paix, le développement, la prospérité, cette responsabilité incombe avant tout au peuple congolais, à ses dirigeants. C'est nous. Les États-Unis n'enverront pas l'armée américaine ici pour régler le problème. D'abord, non. C'est pour cela que je dis que nous devons construire notre propre doctrine sécuritaire, notre propre doctrine diplomatique. Savez-vous que la France était exclue du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1945, quand on crée les Nations Unies, la France est considérée comme un pays de seconde zone. Et elle est venue à San Francisco comme les autres pays du tiers-monde. C'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on disait, les Américains, Roosevelt et les autres, ne voulaient pas entendre parler de la France. C'était contre les généraux français qui ont perdu la guerre, qui ont été battus à plate couture par l'Allemagne. Ils disaient que la France n'a rien contribué à la victoire contre l'Allemagne. La France ne peut pas être ici autour de la table des grands. On l'a exclue. Mais comment la France s'est retrouvée aujourd'hui membre permanent du Conseil de sécurité avec le droit de veto? C'est parce qu'autour du général de Gaulle, les élites françaises ont dit, général de Gaulle, voilà, nous devons construire notre propre BATNA, notre meilleure alternative. Sinon, on sera relégué à ce qu'on zone. Et ils ont travaillé, on n'a pas le temps, on peut en parler un jour.
Oui, certainement.
Et donc, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et c'est ce que général de Gaulle a fait, le français. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui dans notre pays. Et donc, c'est vrai qu'il y a des accords qui se négocient, mais l'État congolais doit monter en puissance en tant qu'État, un État stratège, avec des élites, et il y en a beaucoup, qui peuvent apporter leur contribution pour le redressement du pays, en étant utile au président de la République, en étant utile au pays, parce que c'est lui qui décide, n'est-ce pas? Mais il faut, Amos, Odia, je suis d'accord avec vous, mais il faut éviter que ceux qui ont un accès au président de la République et qui vont sombrer dans la médisance, dans les calomnies, dans les complexes d'infériorité, pour éloigner des sphères de pouvoir ceux qui peuvent être utiles au pays en étant utiles au président.
Voilà,
et donc nous devons construire notre modèle qui va nous permettre de peser à la table des négociations.
Ça, c'est important, de le
et
dire.
Et c'est très important. Sinon, nous allons courir derrière les événements. Nous allons passer notre temps.
On va subir les événements. Permettez que je prenne rapidement deux derniers auditeurs et puis on pourra revenir à vous pour conclure. Moi aussi, je vais lire des condensés de Julie Fizabongonda. Nous avons Aloïs Sataji qui nous appelle depuis Luisa au Kasaï Central, mais aussi Baudry qui nous appelle depuis Lilongwe au Malawi. Aloïs Sataji, vous êtes là, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Gilles, je suis à Louisa.
Ben, c'est Marcel Ngombo, allez-y, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup Monsieur Marcel. En fait, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda avait suscité un espoir de détente régionale après des années de tensions et conflits dans l'est de notre pays. 4 mois après sa conclusion, une question majeure se pose, si cet accord existe réellement sur les faits ou simplement dans les textes. Et ceci nous pousse, en tant qu'analyste averti, à nous apercevoir que, sur le plan formel, cet accord possède une valeur juridique incontournable. Conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur les droits des traités, l'accord engage les deux parties signataires à respecter leurs obligations de bonne foi. En théorie, on sous-entend que l'accord représente un instrument légitime du droit international public visant la cessation des hostilités, la coopération sécuritaire ainsi que la stabilisation régionale.
S'il vous plaît, dites-nous maintenant. S'il vous plaît, c'était un échange, s'il vous plaît. Maintenant qu'il a dit blocage par rapport à l'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi, il y a ceux qui ont estimé que, en tout cas, si le blocage persiste, c'est au Conseil de sécurité de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour trouver des sanctions, de mesures contraignantes ou à recourir au chapitre 7. Il y a également ceux qui ont estimé qu'il faut d'abord commencer par résoudre nos problèmes à l'interne. Qu'est-ce que vous pensez rapidement, Loïs?
Non, ce que je pense rapidement, ici, oui. J'ai cité quelques facteurs qui font blocage par rapport à l'applicabilité de cet accord.
Oui.
Et parmi ces facteurs, j'en cite très rapidement 4. Nous avons le déficit de confiance mutuelle entre Kigali et Kinshasa.
Oui.
Vous savez, messieurs les journalistes, lorsqu'on s'engage à faire quelque chose de commun accord, on doit être conscient de regarder dans la même direction. Le deuxième facteur de blocage, il y a les intérêts économiques concurrents, notamment autour des ressources du Kivu, les ressources minières, bien entendu. Le troisième, il y a manque de garantie internationale ferme et le mécanisme de sanctions en cas de non-respect de l'accord.
Oui,
et le quatrième... parce que sa mise en œuvre est dédiée à la seule volonté des États, alors que les États eux-mêmes ne savent pas manifester cette volonté-là. C'est là que je rejoins un peu le point de vue d'autres qui ont évoqué l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies.
Et le quatrième, puisqu'on voudrait... Et le quatrième, ça c'est...
Oui, le quatrième, c'est la persistance des groupes armés qui rend toute application intégrale de l'accord impossible.
Voilà, merci beaucoup. Merci à Loïs.
Il y a quand même des mesures pour certaines sanctions.
Merci à Loïs. Vous avez parlé des sanctions. Ceux qui vous ont précédé l'ont également dit. On a compris. On va prendre le tout dernier. C'est Baudry qui nous appelle depuis Lilongwe au Malawi. Baudry, vous avez la parole.
Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Oui.
Oui, ok. J'aimerais juste émettre un avis comme toute personne qui regarde comment les choses avancent.
Ouais, rapidement, Baudry, on est vraiment pour ce qu'on a fait rapidement, oui.
Oui, moi je pense que notre pays est pris en otage par des accords interminables.
Oui.
Nous constatons que le pays avec lequel nous avons signé l'accord prend de l'avance sur le plan diplomatique et pendant ces temps politiques, nos politiciens nous plongent dans des distractions. Essayant de nous convaincre que ces accords vont amener la paix dans notre pays. Nous avons vu que ça prend du temps l'exécution de ces accords et de l'autre côté, sur le terrain, il y a le M23 qui prend du temps.
Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Baudry? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Oui. Moi, je pense que la solution, c'est juste il faut donner à l'armée les moyens suffisants pour que ils parviennent à défendre les pays.
Voilà, c'est important, c'est ce qu'on cherchait à savoir, Baudry. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'armée puisse monter en puissance. C'est très important parce qu'il faut une armée forte pour défendre notre pays. Merci, Baudry, d'avoir appelé depuis Lilongwe. C'était au Malawi. En tout cas, continuez à appeler comme ça nous fait toujours plaisir d'avoir des auditeurs qui appellent de l'étranger. Merci et bonne journée à vous, Baudry, à Lilongwe, au Malawi. Avant de conclure les positions, rapidement, c'est condensé direction des auditeurs tels que nous le présentons. Julie Fizabongonda, direction favorable des auditeurs qui reconnaissent que malgré les difficultés sur le terrain, l'accord est une étape importante et qui pose des bases prometteuses pour la paix durable. Ils insistent sur la nécessité des rigueurs, des transparences, de persévérance, de justice et d'implication des populations pour que la paix devienne une réalité concrète. C'est le cas du Junior Bompongo, Diédoné, Talaguna, Salomon, Ukumu et Blessaïdi. Les directions des forums également critiquent la mise en place inefficace, dénoncent l'absence d'action réelle sur le terrain, la persistance des hostilités, les manques de sincérité des partis, la responsabilité du gouvernement dans l'échec apparent du processus. C'est que pense Josephat, le patriote, Steve Baïguerre, Samuel Kisilikwa, Alain Mouema, Bangidanga, Christian et Jérôme et Sylvain Ganoff qui a réagi en direct. Réaction neutre également, mais ils mettent en garde sur la nécessité de s'attendre à des conditions difficiles dans les dialogues. Appel à vigilance et à l'efficacité des institutions internationales, tout en rappelant que la guerre est complexe et multiforme. C'est le cas de John Numbi au Mandé. Voilà. Pour ça, on va conclure avec vous. L'essentiel a été dit.
Exact.
Il y a blocage, mais l'accord, vous l'avez dit, Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'accord a échoué. Mais bien au contraire, il faut au mécanisme de suivi de faire bien son travail. Oui. Au cas où le blocage persiste, il faut revenir au Conseil de sécurité.
Tout à fait. Je résume. L'accord du 27 juin à côté de Washington, c'est un bon accord.
Oui.
Son exécution pose quelques difficultés au bout de 3 mois. Mais n'oubliez pas, mes chers compatriotes, que c'est un problème qui dure depuis plus de 30 ans aujourd'hui. On ne va pas régler ces problèmes au bout de 3 mois. On peut comprendre qu'il y ait de retard, des difficultés de départ, des ajustements, etc. C'est normal. Mais attention, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où on va parler de prolongation en prolongation. Parce que pendant cette période-là, l'État ne fonctionne pas correctement. Les troupes rwandaises seront toujours sur notre territoire. Mais il faut avancer, il faut rester vigilant, faire les choses. Mais si ça ne marche pas, moi, personnellement, j'ai une préférence pour la résolution du Conseil de sécurité, 2773, parce que le Conseil de sécurité qui s'occupe du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, et c'est le Conseil qui peut prendre des sanctions contre telle ou telle entité, contre le Rwanda ou la RDC, etc., et mobiliser le monde entier pour appliquer les mêmes sanctions. Ce que les États-Unis ne peuvent pas faire, parce que c'est un État. Et donc, je suis vraiment déterminé intellectuellement à défendre la résolution 2773 par rapport à l'accord de Washington. Parce que si ça piétine pour des raisons diplomatiques ou autres avec les États-Unis, eh bien, le Conseil de sécurité doit prendre la relève. Deux, ça n'empêche pas la RDC de prendre ses responsabilités en tant qu'État pour défendre sa souveraineté. J'ai eu beaucoup de plaisir en apprenant que la MONUSCO vient de faire un sacré boulot, un sacré travail, dans l'Itourie, en formant des régiments, en renforçant les capacités opérationnelles et techniques de notre armée, avec l'apprentissage pour la gestion des drones, des méthodes de combat, etc. Et c'est très bien. Cette coopération, cette collaboration étroite entre les FARDC avec la MONUSCO, c'est ça la voie de l'avenir. Et la voie de l'avenir, c'est notre armée, c'est FARDC. Pour quel est le problème ? Interne. Nous devons prendre les choses en main, nous-mêmes, sur le plan militaire, sur le plan politique, diplomatique, profiter de l'expertise de la MONUSCO et d'autres choses, pour arriver à faire monter en puissance l'armée. C'est ce qui va nous permettre de peser autour de la table des négociations. Que ce soit à Washington ou à Doha, c'est la force qui va soutenir la diplomatie congolaise.
Voilà.
Si vous n'avez pas la force, vous n'avez pas de diplomatie. Et donc ça, c'est très important.
Merci, professeur Tshibangoukala. On va s'arrêter par là. Je rappelle que vous êtes expert en droit international. Merci d'avoir été de nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour échanger avec les auditeurs sur les questions des processus de paix.
Merci.
Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné, à Debs Vita qui était à la mise en onde, à Jonathan Chimangé, Paul Badianama qui vous ont permis de suivre ce magazine en direct sur la plateforme digitale de Radio Capi, à savoir YouTube, X et Facebook. Au micro, c'était Marcel Gomobal. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, on suit le programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.